L'article suivant sera étudié la semaine commençant le 9 février 2015. Saisis-tu le sens? Voici le verset thème de l'étude. Il leur ouvrit pleinement l'intelligence pour saisir le sens des Écritures. Luc 24, verset 45. Tout en écoutant cet article, réfléchis à ce que t'enseigne l'exemple du semeur qui dort, de la scène, du fils prodigue. Paragraphes 1 et 2, question. Comment le jour de sa résurrection, Jésus a-t-il fortifié ses disciples? Nous sommes le jour de la résurrection de Jésus. Deux de ses disciples se rendent dans un village situé à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Ne sachant pas que Jésus a été ressuscité, ils ont le cœur lourd. Soudain, Jésus apparaît, se met à marcher avec eux et parvient à les réconforter. De quelle manière? Commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interprète dans toutes les Écritures les choses qui le concernent. Luc 24, versets 13 à 15 et 27. C'est alors que le cœur de ces hommes se met à brûler parce que Jésus leur ouvre pleinement les Écritures. Autrement dit, il les leur explique clairement. Luc 24, verset 32. Le soir même, les deux disciples retournent à Jérusalem. Ils y trouvent les apôtres auxquels ils racontent ce qui leur est arrivé. Tandis qu'ils parlent, Jésus leur apparaît à tous. Mais ces apôtres sont terrifiés. Des doutes leur montent au cœur. Alors Jésus les affermit. Comment? Il leur ouvre pleinement l'intelligence pour saisir le sens des Écritures. Luc 24, verset 45. Paragraphe 3, question. Quelles difficultés rencontrons-nous peut-être dans notre ministère et comment acquérir un point de vue équilibré à ce sujet? Comme ses disciples, il peut nous arriver d'avoir le cœur lourd. Peut-être que nous nous activons dans l'œuvre du Seigneur, mais que nous sommes découragés de ne pas voir de résultats. Ou bien nous avons l'impression que les personnes qui étudient avec nous ne progressent pas beaucoup. Peut-être même que certaines se sont détournées de Jéhovah. Comment acquérir un point de vue équilibré sur notre ministère? Un bon moyen consiste à saisir pleinement le sens des exemples de Jésus consignés dans les Saintes Écritures. Examinons en trois et voyons quels enseignements nous pouvons en tirer. Le semeur qui dort. Paragraphe 4, question. Que signifie l'exemple du semeur qui dort? Nous lisons en Marc 4, versets 26 à 29. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme lorsqu'un homme jette la semence sur la terre, et il dort la nuit, et il se lève le jour, et la semence germe et grandit, sans qu'il sache comment. D'elle-même la terre porte du fruit progressivement, d'abord le brin d'herbe, puis l'épi, enfin le grain complètement formé dans l'épi. Mais dès que le fruit le permet, il fait passer la faucille parce que le temps de la moisson est arrivé. Que signifie l'exemple du semeur qui dort? L'homme de cet exemple représente les proclamateurs du royaume pris individuellement. La semence, c'est le message du royaume prêché aux humains sincères. Comme la plupart des gens, le semeur dort la nuit et se lève le jour. Le processus de croissance dure un certain temps qui va des semailles à la récolte. Durant cette période, la semence germe et grandit. Cette croissance se fait d'elle-même, progressivement et par étapes. De manière comparable, la croissance spirituelle se fait progressivement et par étapes. Quand une personne progresse au point de se sentir poussée à servir Dieu, elle porte du fruit, en ce sens qu'elle se voue à Jéhovah et se fait baptiser. Paragraphe 5, question. Pourquoi Jésus a-t-il pris l'exemple du semeur qui dort? Pourquoi Jésus a-t-il pris cet exemple? Pour nous aider à comprendre que c'est Jéhovah qui fait croître la vérité dans le cœur des gens, dans la disposition qu'il faut. Acte 13, verset 48. Nous plantons et arrosons, mais nous n'avons aucun pouvoir sur la croissance. Nous ne pouvons ni la forcer, ni l'accélérer. À l'image du semeur, nous ne savons pas comment cette croissance se produit. nous ne la remarquons pas, tandis que nous vaquons à nos occupations quotidiennes. Mais en temps voulu, la semence du royaume peut porter du fruit. Le nouveau disciple se joint alors à nous dans la moisson. Paragraphe 6. Question. Que nous faut-il admettre à propos de la croissance spirituelle? Que nous enseigne cet exemple? Premièrement, qu'il nous faut admettre que nous n'avons aucun pouvoir sur la croissance d'un étudiant de la Bible. La modestie nous retiendra de faire pression sur un étudiant pour qu'il se fasse baptiser, voire de le forcer à le faire. Nous lui apportons toute l'aide que nous pouvons, mais nous admettons humblement que c'est à lui seul de décider s'il se vouera à Jéhovah. Il doit le faire de son plein gré, parce que son cœur le pousse à servir Dieu par amour. Toute autre motivation ne serait pas agréée de Jéhovah. Paragraphes 7 et 8, question A. Quel autre enseignement tirons-nous de l'exemple du semeur qui dort? Cite un fait. Question B. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur Jéhovah et sur Jésus? Deuxièmement, comprendre ce qu'enseigne cet exemple nous empêchera de nous décourager si nous ne voyons pas tout de suite les résultats de notre travail. Soyons patients. Même si la semence ne porte pas de fruits, dans la mesure où nous avons fait de notre mieux pour enseigner l'étudiant, n'en déduisons pas que nous avons mal rempli notre mission. Ce n'est que dans les cœurs humbles, disposés à changer, que Jéhovah permet à la semence de vérité de croître. Nous ne devrions donc pas mesurer l'efficacité de notre ministère simplement à ses résultats. Ce n'est pas en fonction de la réaction d'un étudiant que Jéhovah juge de la qualité de notre ministère. Il accorde plutôt une grande valeur à nos efforts fidèles, quels qu'en soient les résultats. Nous lisons en Luc 10, versets 17 à 20. Alors les 70 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis quand nous nous servons de ton nom. » Sur quoi il leur dit « Je regardais Satan déjà tombé du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, ainsi que le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms ont été inscrits dans les cieux. » Nous lisons en 1 Corinthiens 3, verset 8. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Troisièmement, nous ne discernons pas toujours les changements en cours chez une personne. Par exemple, un couple a un jour dit au missionnaire avec qui ils étudiaient qu'ils souhaitaient devenir proclamateurs non baptisés. Le missionnaire leur a alors rappelé que pour remplir les conditions requises, ils devaient arrêter de fumer. Mais à sa grande surprise, ils avaient arrêté depuis plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que Jéhovah les voyait fumer et que Jéhovah déteste l'hypocrisie. Leur cœur les avait alors incités à prendre une décision. Soit ils fumaient devant le missionnaire, soit ils ne fumaient plus du tout. L'amour pour Jéhovah, qui s'enracinait dans leur cœur, les avait poussés à prendre la bonne décision. Ils avaient progressé spirituellement, même si ces progrès avaient totalement échappé aux missionnaires. La scène. Paragraphe 9. Question. Que signifie l'exemple de la scène? Nous lisons en Matthieu 13, versets 47 à 50. « Le royaume des cieux est encore semblable à une scène lancée dans la mer et qui rassemble des poissons de toutes sortes. Quand elle a été remplie, les pêcheurs l'ont tirée sur la plage et, s'asseyant, ils ont ramassé dans des récipients les beaux poissons, mais ils ont rejeté ce qui ne convenait pas. Ainsi en sera-t-il à l'achèvement du système de choses. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes et ils les jetteront dans le four de feu. C'est là que seront leurs pleurs et leurs grincements de dents. » Que signifie l'exemple de la scène? Jésus a établi un parallèle entre la prédication du message du royaume à tous les humains et le lancer dans la mer d'une grande scène ou filet. Tout comme un tel filet attrape en grand nombre et sans distinction des poissons de toutes sortes, notre prédication attire des millions de personnes de toutes sortes. C'est ce que prouve le grand nombre de personnes qui assistent chaque année à nos assemblées régionales et au mémorial. Certains de ces poissons symboliques étant beaux, Ils sont accueillis dans la congrégation chrétienne. Mais d'autres ne conviennent pas. Tous les poissons rassemblés n'obtiennent pas l'approbation de Jéhovah. Paragraphe 10, question. Pourquoi Jésus a-t-il pris l'exemple de la scène? Pourquoi Jésus a-t-il pris cet exemple? Précisons tout d'abord que la séparation des poissons ne symbolise pas le jugement final durant la grande tribulation. Elle annonce ce qui se passe durant les derniers jours de l'actuel système mauvais. Jésus voulait montrer que parmi les humains attirés par la vérité, tous ne prendraient pas position pour Jéhovah. Beaucoup ont assisté à nos réunions, d'autres ont accepté d'étudier la Bible avec nous, mais ne veulent pas s'engager. D'autres encore ne fréquentent plus la congrégation chrétienne. Certains ont été élevés par des parents chrétiens, mais n'ont pas cultivé d'amour pour les normes de Jéhovah. Quoi qu'il en soit, Jésus a souligné que chacun doit décider pour lui-même. Jéhovah considère ceux qui prennent la bonne décision comme les choses désirables ou précieuses de toutes les nations. Haggaï 2, verset 7. Note. Paragraphes 11 et 12, question A. Comment tirer profit de l'exemple de la scène? Question B. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur Jéhovah et sur Jésus? Comment tirer profit de l'exemple de la scène? Comprendre ce qu'enseigne cet exemple nous empêchera d'être triste ou déçu à l'excès si un étudiant de la Bible ou un de nos enfants n'accepte pas la vérité. Cela peut arriver malgré tous nos efforts. Celui qui accepte d'étudier la Bible, ou qui est plus ou moins élevé dans la vérité, ne nourra pas forcément une solide relation personnelle avec Jéhovah. Ceux qui ne veulent pas se soumettre à la domination de Jéhovah seront à terme écartés de son peuple. Cela signifie-t-il que ceux qui ont quitté la vérité n'auront plus jamais le droit de revenir dans la congrégation ? Ou que ceux qui ne se vouent pas à Jéhovah sont définitivement considérés comme ne convenant pas? Non. La possibilité de changer leur reste offerte jusqu'au déclenchement de la grande tribulation. Jéhovah leur lance en quelque sorte cet appel « Revenez vers moi, et vraiment je reviendrai vers vous. » Malachi 3, verset 7. C'est ce que met en évidence un autre exemple de Jésus, l'exemple du fils prodigue. Nous lisons en Luc 15, versets 11 à 32. Puis il dit, « Un certain homme avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux a dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Alors, il leur a partagé ses moyens d'existence. Plus tard, peu de jours après, le plus jeune fils a tout ramassé, et il est parti pour un pays lointain. Et là, il a dissipé son bien en menant une vie de débauche. Quand il a eu tout dépensé, une dure famine est survenue dans ce pays, et il a commencé à être dans le besoin. Il est même allé s'attacher à l'un des citoyens de ce pays, et l'homme l'a envoyé dans ses champs pour garder les porcs. Et il désirait se rassasier des gousses du caroubier que mangeaient les porcs, et personne ne lui donnait quoi que ce soit. Quand il est revenu à la raison, il a dit « Combien de salariés de mon père ont du pain en abondance, tandis que moi, ici, je suis en train de périr de faim. Je vais me lever et faire route vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi comme l'un de tes salariés. » Il s'est donc levé et il est allé vers son père. Tandis qu'il était encore à une bonne distance, son père l'a aperçu et a été pris de pitié, et il a couru se jeter à son cou et l'a embrassé tendrement. Le fils lui alors dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi comme l'un de tes salariés. » Mais le père a dit à ses esclaves, « Vite, apportez une longue robe, la meilleure, et revêtez-l'en. Et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds. Et amenez le jeune taureau engraissé, tuez-le, mangeons et donnons-nous du bon temps, parce que mon fils que voilà était mort et il a repris vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils ont commencé à se donner du bon temps. Or, son fils aîné était au champ. Et comme il revenait et approchait de la maison, il a entendu un concert de musique et des danses. Il a alors appelé à lui un des serviteurs et a demandé ce que cela signifiait. Celui-ci lui a dit, « Ton frère est venu et ton père a tué le jeune taureau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il s'est mis en colère et il refusait d'entrer. Alors son père est sorti et s'est mis à le supplier. En réponse, il a dit à son père « Voilà tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave et pas une seule fois je n'ai transgressé ton commandement. Et à moi, pourtant, pas une seule fois tu n'as donné un chevreau pour m'offrir du bon temps avec mes amis. Mais dès qu'est arrivé ton fils que voilà, lui qui a dévoré tes moyens d'existence avec des prostituées, pour lui tu as tué le jeune taureau engraissé. » Alors il lui a dit « Mon enfant, toi tu as toujours été avec moi. » Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien se donner du bon temps et se réjouir, parce que ton frère que voilà était mort, et il a pris vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Le fils prodigue. Paragraphe 13. Question. Que signifie l'exemple du fils prodigue? Que signifie l'exemple du fils prodigue? Le Père compatissant représente Jéhovah, notre Père céleste plein d'amour. Le Fils qui réclame son héritage, puis le dilapide, représente les personnes qui se sont éloignées de la congrégation. En la quittant, c'est comme si elles étaient parties pour un pays lointain, le monde de Satan qui est éloigné de Jéhovah. Mais par la suite, certaines reviennent à la raison et font le difficile voyage retour vers l'organisation de Jéhovah. Notre Père, prêt à pardonner, accueille à bras ouverts ces humains humbles et repentants. Paragraphe 14. Question. Pourquoi Jésus a-t-il pris l'exemple du fils prodigue? Pourquoi Jésus a-t-il pris cet exemple? Il voulait montrer, de façon émouvante, que Jéhovah veut que les égarés reviennent à lui. Le père de l'exemple n'a jamais désespéré que son fils revienne. Quand il a aperçu son fils, pourtant encore à une bonne distance, il s'est précipité à sa rencontre pour l'accueillir. Quel puissant encouragement pour ceux qui ont quitté la vérité à revenir à Jéhovah sans tarder. Peut-être sont-ils épuisés spirituellement et éprouvent-ils des difficultés et une certaine honte à revenir. Mais l'effort en vaut la peine. À leur retour, même les cieux se réjouiront. Paragraphes 15 et 16, question A. Qu'apprenons-nous de l'exemple du fils prodigue? Cite des faits. Question B. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur Jéhovah et sur Jésus? Comment tirer profit de l'exemple du fils prodigue? Nous devrions imiter Jéhovah. Surtout, gardons-nous d'être juste à l'excès, d'être juste au point de ne pas vouloir accueillir les pécheurs repentants. Nous amènerions sur nous la désolation spirituelle. Ecclésiaste 7, verset 16. Autre enseignement, considérons celui qui quitte la congrégation comme une brebis perdue, plutôt qu'une cause perdue. Psaume 119, verset 176. Que ferons-nous si nous rencontrons quelqu'un qui s'est éloigné de la congrégation? S'il n'est pas excommunié, lui proposerons-nous affectueusement de l'aider à revenir? Dans tous les cas, informerons-nous rapidement les anciens pour qu'ils lui apportent l'aide nécessaire? C'est une façon d'appliquer avec sagesse ce que nous enseigne l'exemple du fils prodigue. Note en quels termes certains enfants prodigues des temps modernes expriment leur reconnaissance envers Jéhovah pour sa miséricorde et envers la congrégation pour son amour et son soutien. Un frère qui a été excommunié pendant 25 ans déclare « Depuis ma réintégration, à mesure que Jéhovah m'accorde des époques de rafraîchissement, ma joie ne cesse d'augmenter. » Acte 3, verset 19. Je reçois tant de soutien et d'amour de la part de tous. J'ai maintenant une merveilleuse famille spirituelle. Une jeune sœur qui est restée éloignée de Jéhovah 5 ans a dit « Les mots me manquent pour décrire ce que j'ai ressenti lorsque j'ai été si clairement l'objet de l'amour dont Jésus a parlé. Faire partie de l'organisation de Jéhovah, ça n'a pas de prix. » Paragraphes 17 et 18, question A. Quels enseignements avons-nous tirés des 3 exemples étudiés? Question B. À quoi devrions-nous être déterminés? Quels enseignements avons-nous tirés de ces 3 exemples? Premièrement, comprenons que nous n'avons aucun pouvoir sur la croissance spirituelle. Cet aspect appartient à Jéhovah. Deuxièmement, soyons réalistes. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tous ceux qui se joignent à nous et qui étudient avec nous prennent position pour la vérité. Enfin, même si certains quittent la vérité et se détournent de Jéhovah, ne désespérons jamais de les voir revenir. Et s'ils reviennent, accueillons-les d'une manière qui reflète le point de vue de Jéhovah. Que chacun de nous continue à rechercher la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Quand nous lisons les exemples de Jésus, demandons-nous ce qu'ils signifient, pourquoi ils ont été rapportés dans la Bible, comment en appliquer les enseignements et ce qu'ils nous apprennent sur Jéhovah et sur Jésus. Ainsi, nous montrerons que nous saisissons réellement le sens des paroles de Jésus. Après avoir écouté cet article, que répondrais-tu ? Que t'enseigne l'exemple du semeur qui dort ? De la scène ? Du fils prodigue ? Fin de l'article.